Bonjour et bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous au fil de la prochaine heure. Une prochaine heure qui sera consacrée à la découverte croisée de deux albums, deux récits. Alors, dans un deuxième temps, on aura l'occasion de recevoir Caton autour de ses enquêtes de Scooby-Doo. Donc, Caton, avec les ananas de la colère, nous avait amené dans la sphère du polar, du récit d'enquête, dans un premier pastiche. Et j'ai l'impression qu'elle pousse en puissance plus, le pastiche avec justement ces enquêtes de Scooby-Doo qui nous amènent à fond dans une vision absurde de ce type de récit. Alors, on va explorer un peu l'approche, les méthodes de travail, les objectifs en sa compagnie. Donc ça, je le rappelle, c'est en deuxième partie d'émission. Et pour débuter l'émission, en quelques instants, on aura l'occasion de jaser avec Catherine Lepage, qui nous a offert tout récemment, dans le fond, un album qui s'appelle « Vouée ». C'est du côté d'édition de la Pastèque. Et c'est un album dans lequel elle nous entraîne dans son adolescence, autour de l'âge de 16 ans, à une époque où on se cherche, où l'on essaie de plaire et où l'on fait des choix, justement, dans la perspective de plaire, peut-être plutôt que dans la perspective de se construire et se bonifier. Donc, pas toujours les bons choix qu'on va faire. Et donc, ça devient le moteur d'inspiration de ce récit. Aux incidences capillaires également, on va en jaser avec elle tout à l'heure. Mais vraiment, deux univers très distincts qu'on explore aujourd'hui et qu'on explore en votre compagnie. Alors, restez avec nous ici à La vie en BD. Toujours dans le cadre de La vie en BD, on plonge donc en compagnie de Catherine Lepage. On avait envie de jaser, d'échanger autour de son album « Bouée », qui est disponible depuis déjà quelques temps du côté des éditions de La Pastèque. Catherine Lepage, bonjour.
Bonjour Raymond.
Alors, d'entrée de jeu, en fait, « Bouée », qu'est-ce qui t'a amené un peu vers cet album-là, vers le désir de nous plonger, de nous amener dans un récit d'adolescence?
Question complexe. Je me demande par où commencer. Je vais commencer par un point vraiment technique qui est les cheveux, qui sont très présents dans Bouée. C'est drôle, j'avais eu une conversation avec Vincent Giard qui m'avait dit qu'il trouvait ça très beau comment je dessinais les cheveux. Puis il m'avait dit « tu devrais faire une histoire de cheveux ». Puis tu sais, on avait fait des blagues là-dessus. Ah oui, quelque chose qui se passe dans un salon de coiffure. Puis c'est niaiseux, mais j'ai repensé à ça à un moment donné. Puis j'ai comme juste dessiné dans un carnet le fameux épisode où je me fais faire une permanente à l'adolescence. Parce que je trouvais ça drôle, effectivement, les cheveux, ce rapport-là aux cheveux, parce que quand dans ma jeunesse, dans toutes mes recherches identitaires, ça passait souvent par le style, le look. C'était la coupe de cheveux qui donnait le ton. Fait que c'est commencé comme ça. Puis j'ai trouvé... Ça a dormi très longtemps dans mes cahiers hein, parce que je ne savais pas du tout si c'était intéressant au-delà de mes propres souvenirs pour moi, le plaisir que j'ai à me replonger là-dedans. J'avais une pudeur aussi à partager ça parce qu'il y a beaucoup d'affaires un peu honteuse, tu sais, dans nos erreurs de jeunesse, nos aventures, mésaventures, jugements douteux, tout ça, que je n'assumais pas nécessairement. J'ai des enfants en plus, puis tu sais, la question me venait souvent, genre, hey, à un moment donné, mes enfants vont lire ça, tu sais, est-ce que j'assume, est-ce que ça me tente? Fait que ça a dormi très longtemps dans mes cahiers.
Puis éventuellement, tu as eu envie d'y revenir puis de plonger un peu dans l'idée de proposer ce récit-là, de montrer ton vécu, ta vulnérabilité, puis j'imagine un peu d'aller parler intimité, rejoindre les autres dans leur intimité à eux aussi.
Bien, c'est tout le temps au cœur de mes projets. Ça l'a été au début inconsciemment. J'ai réalisé que, justement, de plonger dans ma vulnérabilité puis de mettre à la surface ce que j'ai tout le temps caché ou que j'ai essayé, même inconsciemment, tu sais, que j'ai laissé au second plan, mais de mettre ces choses-là au jour, ça soulage les lecteurs aussi qui partagent des fois les mêmes inquiétudes, les mêmes angoisses. C'est comme une démarche que je fais maintenant beaucoup plus consciemment. Mais ça s'inscrit, Bouée s'inscrit encore dans cette même logique que tous mes autres livres, en fait, d'aller chercher les zones d'ombre un peu, d'aller questionner ces facettes-là. Pourquoi on n'en parle pas? Qu'est-ce que ça fait aussi d'enfouir ça? C'est quoi les séquelles à long terme? Là, moi, je suis plus dans le rétroactif, là. Mais bon, tu sais, si j'ai fait des dépressions, puis si j'ai beaucoup d'anxiété, je cherche les racines et remonte à où, tu sais. Je trouve peut-être des réponses qui sont pas justes, mais moi, ça me fait, tu sais, je trouve ça intéressant de faire des liens, en fait. Des fois, ça aide de juste dire, ah, ça doit être à cause de ça, tu sais.
Et tu parlais d'épisodes capillaires, parce qu'effectivement, l'album est rythmé par les coupes de cheveux, et les coupes de cheveux sont un peu le symptôme visible de la volonté de ton avatar dessiné d'Amboué, qui cherche à plaire, qui cherche à fitter, si tu me permets l'anglicisme, ouais. Qui cherche sa place, puis qui la trouve beaucoup dans le regard des autres ou dans l'émulation, dans le fond, de ce qu'elle trouve cool, des gens qu'elle trouve intéressants, des gens qu'elle admire pour des bonnes ou des mauvaises raisons, plus des mauvaises dans certains cas. Donc, c'est un peu ça qu'on explore aussi, toute la quête identitaire, au bout du compte, de l'adolescence. C'est quoi ma place, qui je suis, puis...
Oui, ben c'est ce que je trouvais intéressant aussi à explorer, tu sais... On est construit de toutes les expériences qu'on vit. On assimile ça, ça fait partie de notre identité plus ou moins. Mais à un certain point, et je ne sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a des facettes de moi-même que j'ai cachées ou que je n'ai pas laissé s'exprimer. Puis après ça, tu te rends compte de plein de mécanismes qui se sont installés avec les années que des fois, tu te ramasses dans des choix que tu te demandes « Mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? » ou « Pourquoi je me ramasse là? » Puis tu détricotes ça, c'est intéressant. Si je peux sensibiliser les plus jeunes à être eux-mêmes puis à être plus conscients déjà des choix qu'on fait ou du moins de pas refouler ça ou d'être ouvert, là, je pense que ça peut peut-être aider des personnes à...
Oui, ben en fait, c'est d'autant plus, c'est ce qui est fascinant, c'est que dans ces âges-là, parce qu'évidemment, tu nous amènes un peu dans tes 16 ans, dans ce cas-ci, il y a tellement de choix qu'on fait, et les choix qu'on fait, on les fait pas nécessairement avec le recul de l'expérience, donc ils sont faits des fois un peu n'importe comment, et des fois, ils sont faits simplement à travers le désir de plaire, au bout du compte.
Exact, oui. Qu'est-ce qu'on fait juste pour être accepté? Quelle partie de notre personnalité on laisse de côté parce qu'on ne veut pas avouer qu'on aime telle chose, parce qu'on a peur que les autres rient de nous? Ça peut aller loin. Puis moi, c'est ce que j'ai réalisé rendu adulte, que j'avais cette image-là de fille forte que moi-même je croyais, puis que tout le monde autour de moi trouvait « Hey, toi, t'es tough », ou tu sais, cette image-là, à un moment donné, j'ai réalisé, ben oui, mais non, tu sais, j'ai mes vulnérabilités aussi, j'ai ma fragilité que moi-même, je ne voulais pas voir ni accepter. Je pense que c'est le diagnostic de dépression qui m'a comme mis face à ça, tu sais, c'était le choc, justement, de, ben non, ça se peut pas, je peux pas faire une dépression, je suis forte. Puis, OK, mais si je fais une dépression, mais je vais m'en sortir tout seul parce que je suis forte. Tu sais, cette perception-là, cette construction-là que j'avais faite, qui j'ai bernée jusqu'à moi-même, tu sais.
Une construction de la force à la limite plutôt que de ta force, c'est de qu'est-ce que c'est la force.
Oui.
On va chercher puis un peu dans l'album, mais dans le fond, la Catherine de l'album la trouve dans des histoires d'amour qui sont avec des gens qu'on perçoit comme étant forts, mais qui finalement ont des failles importantes. Puis elle, pour lutter un peu contre le fait qu'elle ne veut pas être la fille tranquille, la petite bolle, mais elle va se lancer avec des gens qui ont fait eux aussi des mauvais choix, dans le fond, en cours de route.
Là. Oui, oui, oui. Mais il y a... Je constate que ça existe encore, malheureusement, là, cette espèce d'aura des bad boys. Là, ça reste comme toujours attirant, le côté rebelle, le côté de quelqu'un qui est assez fort pour se foutre des règles puis qui se fout de ce que les autres pensent de lui. Mais je sais pas à quel point c'est dangereux, en fait, parce que... je sais pas, il y a quelque chose d'attirant dans ça. Mais c'est comme si on veut aller chercher la force de l'autre, se l'approprier en la vivant par procuration, tu sais.
Oui, à la place de trouver sa force à soi, dans le fond.
C'est ça.
Et pour aborder Boué, donc tu disais, on veut se replonger un peu, bon, c'est la dépression qui t'a remis un peu dans cette volonté-là de remonter un peu aux sources, de voir un peu qui t'étais, comment tu t'es construit. Et c'est en découvrant que ces éléments-là, ça donnait envie justement de les raconter, de les structurer, de les amener tranquillement dans une logique, dans une histoire, dans le fond.
Oui, mais puis dans tout mon travail aussi, il y a tout le temps l'humour qui est très important pour moi. Fait que
Oui. Et c'est important de le spécifier parce que c'est drôle comme album, là, on s'entend. Il y a des moments
Merci.
qui sont très souriants malgré tout, là.
Ben c'est ce que je veux, moi. Puis c'est drôle parce que d'une personne à l'autre, la perception est pas la même. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils ont ri énormément, des gens qui m'ont dit qu'ils avaient ri, puis d'autres qui m'ont dit, ah, hey, mon père, entre autres, il était très. Très mal, il dit, ah, mais mon Dieu, t'étais donc bien malheureuse. Je disais, ben non, j'étais pas malheureuse. T'sais, malgré tout ça, lui, sa conclusion, c'était, je sais pas, mais c'est sûr que du point de vue d'un père, c'est différent aussi, là. Puis ça fait partie des personnes, quand je me demandais, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ce livre-là, t'sais, je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie que mes parents lisent ce livre-là, t'sais? Mais bref, tout ça pour dire que, c'est pas tout le monde qui perçoit le degré d'humour de la même manière. Il y en a qui le voient beaucoup plus grinçant ou amer. Alors que moi, en fait, moi, j'ai aucun problème avec ce que je raconte là-dedans. Maintenant que c'est sorti, c'est parti, j'en ris beaucoup, là. Tu sais, c'est une manière de désamorcer aussi tout ce qui est plus dramatique. Ou, tu sais, puis je pense que ce qui est le fun dans ce partage-là, c'est que. Les lecteurs peuvent aussi se rappeler, là, ah oui, moi aussi j'ai fait des niaiseries de même, tu sais, puis ah, c'est vrai que c'est con hein, de vouloir plaire, d'être accepté à tout prix, tu sais.
Le recul amène un peu, j'ai l'impression, cette possibilité d'humour-là où on se voit à quel point on était naïf finalement à l'époque, à quel point on a fait des choix parce que, tu sais, ou sans vraiment raison. Fait que j'ai l'impression que ça devient difficile de revoir l'intensité à laquelle on vivait notre adolescence sans avoir un certain sourire par rapport à qui on était, parce qu'avec les années, évidemment, on s'en est éloigné beaucoup de cette personne-là.
Mais oui, mais c'est ça. Bref, je trouve que l'humour, c'est. Puis, juste comme je te disais, tu sais, au début, je me disais, mais c'est-tu vraiment intéressant pour. Outre les personnes qui me connaissent, qui vont trouver ça drôle parce qu'ils ne savent pas tout ce que j'ai fait, tu sais, ils ne connaissent pas toutes mes aventures de jeunesse. Au-delà de ces personnes-là, est-ce que ça va intéresser plus large? Pour moi aussi, l'humour, c'est. Puis, tisser, de revisiter ces aventures-là en les mettant un peu plus, en travaillant la courbe dramatique pour qu'il y ait un punch ou pour qu'il y ait minimalement des surprises, en fait.
Oui, parce qu'il fallait que tu transformes ce récit-là en un récit de BD aussi, en quelque chose qui était narratif, qui était le fun à lire, à découvrir, qui était structuré. Donc, j'imagine que l'autre défi, dans le fond, une fois que tu dis, bon, OK, j'ai envie de le raconter, la question devient comment je le raconte, comment j'organise, qu'est-ce que je choisis de retenir, qu'est-ce que je choisis de laisser de côté parce que ça pile, parce que ça rajoute, parce que ça sert pas à ce que je veux mettre de l'avant, dans le fond.
Oui, ben ça reste tout le temps le cœur du problème. Dans mon cas aussi, souvent, je travaille par fragments. Tu sais, comme je te dis, cet album-là, c'est une accumulation de petits bouts dans mes carnets sur plusieurs années. Puis j'y travaillais un peu. Après ça, je laissais ça dormir pendant 6 mois. Après ça, ma difficulté, c'est tout le temps de prendre tous ces morceaux-là puis de les faire tenir ensemble. Je pense que je vis ça dans tous mes projets de livres, de films, c'est tout le temps la même chose. Parce que c'est spécifique à ma manière de travailler, je fais pas ça à temps plein. Fait que, tu sais, des fois, je vais être occupée, j'ai plein de contrats qui s'enlignent, puis j'ai pas le temps de me plonger là-dedans.
Est-ce que la structure épisodique, justement, avec les intermèdes capillaires, les changements de look du personnage aussi, te permettent de l'envisager peut-être un peu plus dans cette logique épisodique-là en termes de travail, où tu dis, OK, là, je me concentre sur telle portion, telle période, je suis un peu comme ça, est-ce que...
Ben, écoute, c'est sûr que le fait de travailler comme ça par moment, c'est probablement que ça me contraint à travailler sous cette forme-là d'épisode, là. Puis, mes idées me viennent aussi un peu une à la suite de l'autre, mais j'ai pas de vue d'ensemble au départ, tu sais. J'ai pas dit, tiens, je vais écrire un album sur cette période-là de ma vie. Ça s'est vraiment fait par accumulation, puis à un moment donné, en regardant ça, je dis, hey, ça ferait un livre, tu sais.
La forme vient un peu instinctivement, puis à un moment donné, tu vois ce qui est en train de se construire. Oui. C'est là que tu arrives un peu à l'introduire, à le conclure, à finaliser, oui, cette structure-là.
Oui, puis je rebouge les morceaux un peu, puis bon, on élague, on ajoute des choses qui manquent. Mais c'est ça, je pense que mes projets, ils naissent un peu naïvement ou instinctivement, mais rarement de manière... prémédité, là, OK, je fais un livre sur tel thème. Tu sais, souvent, je me rends compte au fil de l'écriture de, ah, tiens, ce thème-là qui semble, tu sais, dont j'ai envie de parler, mais j'en suis pas nécessairement consciente avant de commencer à écrire.
Ils viennent un peu du besoin, à la limite, en fait, besoin de transcender un événement ou de se l'approprier différemment pour le transformer en quelque chose de positif, hein, donner, ouais, une plus-value un peu, ou de se confronter à lui différemment. Oui.
Ouais. Puis, bien franchement, il y a souvent juste l'envie de raconter des histoires, puis c'est le plaisir avant tout, là. Oui, je pense que dans tout ça, même quand je revisite des événements moins heureux, j'essaie de les traiter d'une manière... ben en fait, c'est pas que j'essaie, j'ai pas le choix. Il faut que je les traite d'une manière qui sont le fun, parce que j'aurais pas envie de me replonger là-dedans sinon. Tu sais. Fait que c'est comme tu dis, c'est une manière de tourner en positif des événements, ou de faire la paix avec certains événements, tu sais, de tourner la page...
Parce que quand on regarde un peu ta production BD, Catherine Lepage, dans le fond, on pense à, bon, 12 mois sans intérêt, Fine tranche d'angoisse, Zoothérapie, et maintenant Bouée, mais j'ai l'impression que les émotions négatives ou les difficultés sont un peu l'inspiration ou l'énergie de départ, dans le fond. C'est que tu ne vas pas chercher dans un événement heureux ou des trucs comme ça, tu vas chercher dans des moments durs. Puis c'est un peu là ta matière première, les émotions associées, ouais, à ça, dans le fond.
Oui, tout le temps. C'est ça qui m'intéresse. Justement, ce qu'on n'aime pas mettre de l'avant, tu sais, c'est peut-être en réaction à les débuts des médias sociaux où tout le monde faisait juste partager leur succès. Là, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais encore, je pense ça.
Oui, dynamique de mise en scène, quand même.
Oui, c'est ça. T'sais, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun puis de libérateur de mettre en scène les vulnérabilités à place. Puis je pense, en tout cas, du feedback que j'ai aussi, les gens aiment ça. Ça a un effet réconfortant de sentir qu'on n'est pas tout seul à vivre des choses...
Un peu comme si tu nous donnais le droit, en montrant ta vulnérabilité puis en te l'appropriant, dans le fond, positivement, ouais, tu nous donnais le droit d'être vulnérables, nous aussi, ou tu sais, du moins, ouais, ça pouvait contribuer à nous donner le droit de l'être.
Oui, puis ma réflexion continue tout le temps là-dessus, mais je trouve que je continue de me questionner moi-même, tu sais, dans mon rapport aux autres, puis pourquoi je suis attirée vers tel type de personne, puis j'ai encore cette espèce d'attirance vers ce qui incarne pour moi de la force, ou tu sais, des gens qui ont le jugement sûr, puis qui changent pas d'idée, ou tu sais, qui sont moi je suis tout le temps comme ouais peut-être, ou tu sais, je suis tout le temps dans le doute, puis on dirait que c'est rassurant de voir des gens qui doutent pas, puis je réalise maintenant, tu sais, ouais, mais quelqu'un qui doute pas, c'est pas nécessairement mieux, tu sais. Puis c'est comme si j'accepte maintenant, ben OK, mon côté ambivalent, mon côté qui tergiverse puis qui doute, que j'aime tellement pas, mais ben, peut-être que finalement, c'est une bonne chose, parce que c'est ce qui fait que, bon, ben, je prends le temps d'écouter puis de regarder les opinions différentes des miennes. Et dans le fond, je me demande à quel point c'est pas la société, tu sais, qui nous a... pousser à aller vers ceux qui avancent puis ceux qui décident, puis on est vu comme leader parce qu'on veut que ça avance, mais après, est-ce qu'il y a d'autres formes de force? Oui, tu sais, ma conclusion, c'est, hey, on peut peut-être envisager d'autres manières d'avancer que de tout le temps, tu sais, foncer dans le tas, là.
Oui, puis en fait, pour reprendre un peu ton titre, c'est un peu l'idée, j'imagine, d'être sa propre bouée aussi au départ, d'apprendre à flotter par soi-même plutôt que d'essayer de dépendre un peu des autres qui me donnent l'impression, qui donnent l'illusion des fois d'avancer.
Oui. Ben oui, puis qui nous donne l'impression. En fait, souvent, c'est un peu de la paresse même, tu sais, de dire ah, je vais suivre. C'est plus facile de suivre que de me poser ou que de chercher ma propre réponse, tu sais.
Et tout ça, Catherine, en fait en bichromie, rose, fluo et vert, des couleurs, en fait, en même temps, on est dans les années 80, début 90, je me disais, OK, on s'est lancé dans une tonalité d'époque, si on peut dire.
Ben oui, mais bien franchement, moi, c'est mes couleurs depuis longtemps, là. Ça fitait avec le thème, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un album en fluo. Je suis graphiste, puis j'aime la matière, j'aime les encres. Puis il y a un moment donné d'imprimer en quatre couleurs process, on dirait que pour moi, il y a quelque chose de quasiment trop facile là-dedans. Puis j'avais cette envie-là de faire un album en deux couleurs. Tu sais, des fois, l'absence de moyens ou la simplicité est plus difficile à travailler que quand tu donnes plein de possibilités. Tu sais, il y a quelque chose de contraignant malgré tout dans l'apparente simplicité. Fait que c'est un défi. C'est une esthétique que j'aime, qui me rappelle des albums indépendants, tu sais, des fanzines ou des... Il y a quelque chose qui fitait avec le ton faussement rebelle.
Fait que tu as vu l'opportunité de pouvoir enfin mettre en place l'utilisation de ces couleurs-là, qui se prêtent effectivement pas nécessairement à tous les sujets non plus, mais qui
Non.
viennent vraiment servir l'album, puis effectivement lui donner une identité particulière, là. Je pense qu'il n'y a pas 12 albums qui sont sortis avec ces deux couleurs-là dans les 10 dernières années, là. C'est assez unique. Mais est-ce qu'on se rend compte, par contre, en cours de route, que ça représente un défi, là? C'est cette contrainte de couleur qu'on s'est donnée, c'est pour que ça soit bien dosé, parce que reste que, on parle de couleurs fluo, de couleurs vives, mais en même temps, l'expérience de lecture n'est pas agressante non plus. Donc, il faut réussir à la rendre pas agressante, parce que mal contrôlée, ça peut faire chavirer le bateau aussi.
Moi, je sais. Ça, c'est. J'ai un petit côté têtu là-dessus. Puis, moi, j'y croyais, je le voyais, là. Mais j'ai réalisé après que c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais moi je me suis fiée à mon envie à moi. Puis, c'est ça que j'avais envie de faire. Je suis consciente que ça peut être challengeant, là, de se taper un livre au complet en deux
Moi, j'avais
couleurs
plus le défi
qui
pour
vibrent.
toi, parce que c'est ça, on le voit, ce challenge-là, mais comment toi, tu réussis un peu à le dépasser ou à surmonter au bout du compte, tu sais?
Ouais.
Parce que tout est dans l'équilibre des couleurs, puis au bout du
Ouais.
compte, ça aurait pu être challengeant, mais ça ne l'est pas, en fait. On dirait que ça sert l'album, parce que je trouve que tu as réussi justement cet équilibre-là en deux couleurs qui étaient pour moi au départ improbables. La première fois que tu
Ouais.
l'ouvres, c'est comme genre, ah mon Dieu, puis après
Ouais.
ça, finalement, ah oui, c'est bien, puis finalement, ça se lit, puis c'est super agréable, tu sais, c'est.
Ouais, ben écoute, c'était techniquement un défi parce que pour pouvoir envoyer ça à l'impression, faut que tu sépares tes couleurs. Puis moi, je voulais pas, je l'ai fait à la main en plus, cet album-là. Je voulais pas le faire à tablette, encore une fois, parce que je suis bokeh, puis j'aime ça. Fait que j'ai vraiment fait des essais techniques pour trouver la bonne recette, puis deux couleurs d'encre que j'étais capable de reséparer dans Photoshop. Puis il y a un acte de foi terrible parce que tu vois pas, tu peux pas simuler à l'écran qu'est-ce que ça va donner. T'sais, le fluo, c'est un pigment, là, ça se reproduit pas à l'écran. Fait que j'avais la foi que ça allait fonctionner, là, mais tant que j'ai pas eu les tests, les épreuves papier, t'sais, il restait un petit doute que ça sortirait peut-être pas comme je voulais, là, mais c'est là que mes 15-20 années d'expérience en graphisme me servent, là. T'sais, à un moment donné, je connais assez le spectre de l'imprimé pour être capable de dire OK, ça va marcher.
Et tout ça dans le cadre d'un album qui se rapproche plus d'une BD classique que les albums que je mentionnais tantôt,
Ouais.
mais aussi dans lequel, dans l'organisation des planches, je laissais aussi beaucoup de liberté. Donc, on n'a pas le gaufrier, mais on est plus dans une BD classique avec, par exemple, Zoothérapie ou Fine tranche d'angoisse.
Oui, c'était la première fois dans le fond. Ben, il y avait Pépito, le tragique destin de Pépito pour les jeunes, tu sais, qui était plus proche de ça. Mais sinon, Bowie, c'est vraiment mon premier long récit, mettons, où j'ai un personnage qui revient page après page. Là. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas fait avant. Mes autres livres, Zoothérapie, Fine tranche d'angoisse, c'est tout le temps une double page, une idée. Tu sais, les doubles pages sont autonomes. Là. Donc là, c'était nouveau pour moi d'avoir cette forme-là, tu sais, puis de tenir sur 160 pages, toujours dessiner le même personnage. Là, tu sais, disons que c'est pas quelque chose que j'aurais fait en début de carrière, hein, parce que je pense que ça m'aurait rebuté ou ça m'aurait fait peur, tu sais, de me lasser en cours de route. Dans mes autres livres, tu sais, je change de style régulièrement, fait que c'est comme toujours un renouveau. Il y a quelque chose de distrayant, si je peux dire. Là, tu tombes pas dans la lassitude. Mais je l'ai pas vécu, la lassitude avec Boué. Là, ça a bien été. Fait que ça m'ouvre la porte à faire d'autres livres dans ce genre-là.
T'as vu que tu étais capable de te l'approprier, de surmonter, puis en plus avec des contraintes ou des idées qui étaient un peu à défier au départ, dans le fond, puis dans le contexte d'un récit personnel. Donc, t'as quand même pilé les nouveautés ou les enjeux, dans le fond.
Oui, ouais, je pense qu'il y a une part d'amour du risque dans tout ça. Là. Tu sais, je pense que c'est ce qui fait que j'aime encore travailler à la main avec un pinceau puis de l'encre, puis que...
Les imperfections, les ratages à un certain degré. Là,
c'est ça. Bon, il y a des pages, des fois, que j'ai jetées puis j'ai recommencé, mais grosso modo, il y a quelque chose de le fun à se commettre, tu sais, puis à ne pas pouvoir revenir en arrière. Puis, je sais pas, le petit danger hein, que si je peux rater, puis je vais être obligée de recommencer. C'est con, mais on dirait que ça garde l'intérêt vif.
Et en plus à ça, tu sais, on parlait d'humour, et peut-être en terminant, je pense que je m'en voudrais de ne pas le mentionner, mais on replonge aussi, je parlais des années 80-90, donc ça ajoute peut-être au regard à sourire en coin qu'on peut porter sur ce qu'on faisait à l'époque, qui est un peu dans une logique douce amère d'une certaine façon, tu sais. Mais les années 80-90, les cheveux, la mode et le reste aussi, au-delà de la couleur, ben, ça perméabilise aussi beaucoup de choix esthétiques dans ta manière d'amener les personnages, entre autres.
Là. Oui, bien, puis il y a plein de détails. Comme attendre l'autobus, là. T'sais, moi, j'ai grandi à Charlebourg, puis t'sais, on allait en Haute-Ville, les rencontres à l'arrêt d'autobus, c'est quand même particulier aussi. Puis oui, j'ai essayé de ne pas tomber dans la nostalgie, là, puis de juste faire écho à des marques qui ont disparu, mais bon, il y en a un peu dans le livre, là. Puis... ça va, je trouve que quand c'est dosé ou que c'est justifié, ça va, mais je voulais pas que ça soit juste nostalgique parce que, en fait, pour moi, le message sous-jacent de l'album sur cette quête identitaire-là, poussée par la peur du rejet, je voulais pas que le message soit enterré sous plein de choses plus frivoles ou plus superficielles, mettons.
Oui, il fallait que les choses frivoles servent le message. C'est comme pour revenir à tes cheveux, dans le fond, ça sert le message, ça exprime clairement cette quête identitaire-là, ce désir de plaire, où il y a un gars qui dit « Hey, moi j'aime ça, les filles tough, mais OK, je vais me raser les cheveux.
Ouais. »
C'est un peu comme ça aussi par le visuel, où on en vient à servir le narratif qu'on veut mettre de l'avant.
Exactement. Fait que ce dosage-là était... je tenais justement à ne pas tomber, pas basculer dans le juste parodie des années 80-90 qui peut être très le fun, puis que oui, c'est tout le monde de mon âge vont reconnaître ces affaires-là, puis ça fait rire, puis c'est ça, je voulais quand même que ça aille au-delà de ça.
Et on peut découvrir donc toutes ces dimensions à travers, donc je le rappelle, l'album Boué, qui est disponible du côté des éditions La Pastèque. Catherine Lepage, merci beaucoup.
Merci.
Dans le cadre de La Vie en BD, on plonge maintenant vers l'album Les Enquêtes de Scooby-Doo. C'est du côté des éditions Pawpaw, un album que nous a offert Caton il y a quelques mois déjà. Et il est avec nous pour en parler. Caton, bonjour.
Allô.
Alors, ben, d'entrée de jeu, j'ai l'impression, entre les enquêtes de Scooby-Doo et les ananas de la colère, que tu as un goût du polar d'un côté, mais aussi, et peut-être surtout, un goût du pastiche de ce genre-là, du polar de l'enquête.
Oui, absolument. On dirait que c'est pas une décision consciente que j'ai prise dans les dernières années en me disant comme « bon, maintenant, c'est ça que je fais pour toujours », mais ça a comme adonné que maintenant, c'est juste ça que je fais.
J'imagine qu'il y a un plaisir à s'amuser un peu avec ce genre-là. En fait, si tu dis que c'est venu un peu naturellement, c'est parce que tu avais envie d'explorer un peu les codes, les paramètres, les cadres, dans le fond, de cet univers-là?
Oui, je pense que ça vient probablement à partir du fait qu'il y a beaucoup de choses, comme de choses que je consomme qui sont comme, ben, c'est ça, des inspirations pour ça. J'aime beaucoup comme les vieux films de Hitchcock, par exemple, ou comme pendant une certaine période, j'ai écouté tellement d'épisodes de Columbo, ce genre de choses-là. J'ai vraiment une passion pour les livres de Agatha Christie traduits en français, comme super datés, piquetaines. Fait qu'on dirait que tout ça, ça fait un genre de mélange pour moi, puis ça devient super fertile pour créer c'est ça, un peu m'en inspirer pour les décaler après.
Et le côté passé, justement, est venu un peu parce que j'imagine qu'on est dans un genre qui est aussi facile d'une certaine façon à faire le pastiche parce que les codes sont tellement bien établis, donc ça devient un peu un jeu de réussir ou de s'amuser à les détourner, à les amener complètement ailleurs.
C'est ça, c'est comme pour moi des éléments, des super bons points de départ. On dirait que c'est ça. Je ne sais pas trop, peut-être qu'il y a plusieurs années, j'avais plus de facilité à vraiment juste m'asseoir. J'avais déjà en tête comme tu sais, une panoplie d'histoires, comme c'est un peu sorti de nulle part à mettre en image, ou un peu plus comme des affaires autobio, mais dans les dernières années, on dirait que j'ai plus eu de facilité puis de plaisir à partir de c'est ça, des contraintes comme ça qui sont vraiment dans la culture populaire. Puis je trouve ça super fertile de juste comme pouvoir en choisir comme ça pour faire un genre de casse-tête, puis aussi pour faire de l'humour. J'ai l'impression que c'est ça finit tout le temps par être humoristique. C'est vraiment fertile de pouvoir prendre ces éléments-là que tout le monde connaît un peu, même sans s'en rendre compte. Puis le fait de juste les déplacer un petit peu, ça a vraiment beaucoup de potentiel au niveau humoristique. Ça m'aide beaucoup de partir de ça.
Et tantôt, je mentionnais tes deux derniers albums aux éditions Pawpaw, donc Les Ananas de la colère et maintenant Les Enquêtes de Scooby-Doo. J'ai l'impression qu'il y a un niveau de pastiche ou un niveau d'absurde qu'on augmente de l'un à l'autre, en fait, avec Scooby-Doo, dans lequel tu vas à fond dans un univers absurde, dans un univers qui est décalé. Donc, on était un peu dans quelque chose de décalé avec les ananas, mais ça restait dans le fond, quand même avec un fond d'enquête classique. Mais avec Scooby-Doo, tu te lâches lousse un peu dans l'appropriation de tout ce que tu peux amener d'absurde un peu dans ce type d'univers-là, dans ce type de récit-là.
Oui, c'est ça. C'était vraiment deux processus vraiment différents. J'ai l'impression que Les Ananas de la colère, c'est ça, c'était mon premier livre pour adultes que je faisais vraiment comme toute seule du début à la fin, que je dessinais, que je scénarisais. Puis, à part des livres jeunesse, mais tu sais, c'est, mettons, les livres jeunesse, c'est 40 pages, puis les ananas, c'est comme 130 pages. Puis, je voulais vraiment me donner comme défi de, c'est ça, faire vraiment une enquête classique qui allait se tenir, tu sais, du début à la fin, avec comme, c'est ça, des genres de twists, puis comme, tu sais, des espèces de petits clichés croustillants que tout le monde aime un peu. Puis, mais tu sais, en rajoutant des éléments de culture québécoise qui, tu sais, aussi que tout le monde connaît, puis que la superposition de ces deux affaires-là, d'enquête puis culture québécoise, c'était tellement le fun à faire. Puis moi, personnellement, ça me fait rire, fait que j'espérais que ça fasse rire aussi les autres. Puis, avec Scooby-Doo, je sais pas, après ça, ça m'a... J'ai jamais autant travaillé. J'ai l'impression là, que avant ça, avant Les Ananas de la colère, je me suis tellement investie dans ce projet-là. Puis après ça, j'ai l'impression que ça a été un peu difficile vraiment de recommencer à faire comme un projet en partant, tu sais, du début, vraiment en faisant comme, OK, je m'assois, je scénarise une histoire du début à la fin. Ensuite, comme, tu sais, la bande dessinée, c'est vraiment... Il y a tellement d'étapes, c'est tellement, tellement long, puis... On dirait que là, j'arrivais pas à me starter, tu sais, sur un autre gros processus comme ça. Puis l'affaire avec les enquêtes de Scooby-Doo, c'est que j'avais fait un premier épisode, tu disais, c'est ça, en petite histoire. Puis j'avais fait un premier épisode vraiment pour le fun en comme quelques jours, que j'avais fait en fanzine pour Exposine, une petite foire d'imprimé à Montréal. Puis ça m'avait, c'est ça, je m'étais tellement amusée à faire ça quand j'avais fait ça. Puis j'étais comme, ah, oh, tu sais, un autre, je sais pas, je pense un an plus tard, j'étais comme, ah, oh, j'ai le goût de faire quelque chose vraiment pour le fun, tu sais, je fais aussi beaucoup de contrats, tu sais, pour payer mon loyer et tout ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai besoin de juste faire, me rappeler c'est quoi faire des affaires pour le fun, des affaires qui sont pas, t'sais, vouées à faire des livres sérieux, je sais pas trop. Fait que j'étais comme, ah, oh, je vais faire un deuxième épisode. Finalement, tu sais, petit à petit, je me suis dit, ah, oh, j'aime tellement cet univers-là, j'ai tellement de fun avec ces personnages-là. J'ai l'impression que, tu sais, j'ai comme infini de matériel pour ça. Fait que je me suis, comme, en fait, ça date du début de la pandémie l'année passée. Je me suis dit, ah, oh, je vais comme commencer à faire d'autres épisodes, puis éventuellement, on va voir si je peux comme faire un genre de recueil. Fait que c'était un processus tellement différent. C'était vraiment comme créer une petite pièce détachée, faire une, tu sais, faire une liste d'éléments, mettons, de polar ou d'enquête, tu sais, que je trouvais drôle. Mon cahier de notes pour les enquêtes de Scooby-Doo, il fait aucun sens. Et des fois, c'est juste comme... c'est des petites notes disparates de comme... C'est écrit « Le prospecteur »,« Le professeur » ou « Tu essaies de téléphoner, mais la ligne est déconnectée. » Comme ce genre de clichés-là ou de personnages qu'on voit passer des fois, puis on les connaît, puis là... En mettant tous ces petits éléments-là ensemble, ça a fait un livre finalement. Puis à la suite de ça, j'ai rajouté aussi, il y a comme entre les épisodes aussi des fausses publicités, un peu comme si c'était finalement un genre de recueil d'affaires pré-publiées ou un recueil d'archives. Donc c'était vraiment deux processus complètement différents, mais c'était rafraîchissant là, de pouvoir changer un petit peu de méthode de travail aussi, là.
Et donc, ça veut dire qu'avec la première lancée, la première tentative en 2017 à Exposine, ben, ça a mis un peu les bases. Donc, tu partais aussi déjà avec un univers qui était déjà un peu cadré, avec une dynamique, bon, deux personnages qui étaient déjà là, complémentaires, puis autour duquel, dans le fond, tu avais déjà une base de terrain de jeu au final.
Oui, c'est ça. Puis j'aimais ça aussi le fait, je ne sais pas, particulièrement quand la pandémie a commencé, là, le fait que les personnages, c'était un peu comme, c'est ça. Ça dit que c'est des enquêtes, mais en fait, il y a à peine des enquêtes. C'est vraiment comme des situations initiales. Finalement, tu as juste l'impression que le personnage, il s'imagine qu'il est détective, mais en fait, c'est juste un nobody chez eux qui n'a rien à faire avec son chien à qui il parle, mais qui répond jamais. Fait comme, c'était vraiment cathartique pour moi de comme créer des histoires dans lesquelles, comme, il est tout seul chez lui, dans le noir, avec son chien, son téléphone sonne jamais, puis il est comme... Ouh, sûrement que ma serviette de table, en fait, c'est peut-être une carte au trésor! Parce qu'il s'ennuie tellement qu'il est comme, c'est ça, il s'invente des affaires. Fait que, ouais.
Ça devient un peu une suite d'anticlimax d'une certaine façon. Puis c'est de là, de cette absence d'enjeu-là, que vient le côté absurde, parce que lui vit l'absence d'enjeu de manière très sérieuse. Il est impliqué dans ces non-enquêtes-là. Mais dans le fond, pour le lecteur, bon, on découvre un peu ce personnage-là qui est un peu benêt à la limite, qui est un peu à côté de la trappe, à côté de la coche, et son chien qui, contrairement à Scooby-Doo, qui est un chien extraordinaire, ou des fixes ou autre, là, c'est un chien ordinaire, il y a rien de spécial finalement, donc c'est assez... ça devient un peu des contre-emplois par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre au bout du compte. Je pense que les non-enquêtes ou l'absence d'enjeu, c'est un bon point pour amener un peu, mais j'imagine que ça devient difficile à construire aussi, ou au contraire, c'est très cathartique de construire en cherchant à créer justement des anticlimax, puis en jouant un peu avec les attentes du lecteur.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même une progression. Ben, j'ai changé l'ordre des épisodes finalement quand on a édité le livre, mais dans ma création des épisodes, c'est ça, le premier épisode quand même, tu sais, Samy, le personnage principal, sort de chez lui, comme le professeur l'appelle, il répond finalement, c'est juste que l'enquête est insignifiante. C'est comme le professeur l'appelle pour lui dire qu'il y a un baril abandonné dans une mine. Puis là, il y va. Mais tu sais, puis il est comme, oh mon Dieu, c'est tellement étrange et spectaculaire. Mais comme, en fait, c'est juste un baril. Là. Il est comme, il n'y a rien là. Puis, tu sais, fait déjà, tu sais, je sais pas, ça a l'air plus réel. Quelqu'un l'appelle, il faut qu'il se présente sur des lieux. Après ça, le deuxième épisode aussi, quelqu'un l'appelle pour lui dire qu'il y a un fantôme dans le dépanneur. Puis comme, finalement, c'est juste comme, mettons, un drap avec des sacs de chips en dessous, mais comme, quand même, tu sais, il y a eu à se déplacer au dépanneur. Après ça, plus le temps avançait, plus comme, c'était vraiment genre, il est tout seul chez lui, il est comme, non, mais c'est pas grave, je suis tout seul, mais ça me dérange pas, mais comme personne m'a appelé aujourd'hui, ça fait 4 heures que j'attends à côté du téléphone, mais ça me dérange vraiment pas, comme il y a rien là. Puis, tu sais, plus... On dirait que aussi, ça c'est pas, j'ai pas contrôlé tant ça, mais plus je voyais mes épisodes avancer, plus j'étais comme « Ouais, la pandémie, c'est long!
» Mais c'est de voir jusqu'où tu peux étirer cet élastique-là aussi, jusqu'où tu peux l'amener, parce qu'en même temps, il faut trouver d'autres façons de l'amener, cette absence-là. Parce que si c'est toujours la même chose de courte histoire en courte histoire, mais là, ça devient routinier, on s'attend. Donc, il faut aussi que tu nous surprennes dans ta manière de ne pas nous surprendre.
C'est ça, exact. Puis aussi, je voulais pas que ça... Pour moi, pour que ça soit amusant, il faut que comme ça soit quand même humoristique. Il faut que ça soit comme tourné en blague. Ça devient jamais juste comme... On repose pas le livre en pleurant, là. C'est vraiment pas ça la vibe non plus, là. Fait que juste trouver une manière de... que ça brise le cœur, mais en même temps, on est crampé, genre la fine ligne de tout ça.
Et j'imagine que ça, c'est aidé, cet aspect-là, par justement le côté, je parlais du personnage, puis je pense que tu l'as bien narré aussi, qui est comme toujours un peu décalé, donc nécessairement, ça nous force à avoir aussi un regard un peu plus loin, puis de pas ressentir une grande empathie pour cette personne-là, qui au bout du compte est un peu ridicule, est un peu absurde, donc ça nous aide à avoir le décalage dont on a besoin pour rire de l'ouvrage, plutôt que d'être attristé par cet enjeu.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis des fois, il y a comme un petit doute dans son attitude à lui de comme est-ce qu'il s'en rend vraiment pas compte? Là, s'il s'en rend pas compte, c'est moins grave. Mais des fois, on pense qu'il est peut-être juste un petit peu dans le déni, puis que dans le fond, il sait, mais comme ou que Goubidou, finalement, il comprend, puis il sait aussi, comme c'est pas clair. Puis c'est ça, j'aimais ça jouer avec cette impression-là aussi. Là.
Oui, puis en fait, tu parles de Scooby-Doo, je le mentionnais, c'est un classique animal de compagnie, mais dans ton design, tu l'as rendu quand même assez expressif aussi. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup d'expressions qui viennent apporter au récit et aux propositions.
Oui, on ne sait pas trop c'est quelle sorte de chien parce qu'il est très changeant. Je ne sais pas, il a l'air mou puis il y a plein de plis, là, ouais, il change tout le temps.
Et côté casting, dans le fond, c'est... Ce que j'en comprends, c'est un projet qui est né un peu dans la spontanéité. Ça veut dire que j'imagine que les personnages se sont placés aussi un peu spontanément. Ou est-ce qu'il y a quand même une certaine, dans le fond, un certain travail préalable pour placer Scooby-Doo, pour voir un peu son univers, les personnages qui allaient venir, le prospecteur, la mère et d'autres. Donc, est-ce que comment ça s'est placé? À quel point c'était justement instinctif et spontané dans le
travail? Je dirais que c'était très instinctif. J'ai l'impression que... C'est ça, au début, quand j'ai fait vraiment le premier épisode, c'était pas mal comme, mettons, au niveau du design des personnages, c'était pas mal comme le personnage masculin le plus comme basic que je pouvais dessiner. J'y ai pas pensé deux secondes, j'étais juste comme, c'est ça, son design. Puis pour Scooby-Doo aussi, mais comme c'est ça, vu que mon style de dessin en général, particulièrement pour ce projet-là, il est comme vraiment changeant. Comme si on regarde Scooby-Doo dans le premier épisode versus le dernier, il a beaucoup changé, mais comme il y a juste deux personnages, comme on le reconnaît tout le temps, ça peut, tu sais, il peut y avoir vraiment une variation de design qu'on s'en rend à peine compte, là, finalement, ou en tout cas, ça n'a pas trop d'impact. J'ai quand même été modifier certains dessins, comme quand j'ai fini le livre, tu sais, j'allais modifier certaines cases juste pour être sûr que comme ça ne te lâchait pas trop. Mais sinon, même, j'ai l'impression que même dans mes livres qui sont vraiment plus classiques, comme Les Annales de la colère, Les Cousines vampires avant ça, mon style de dessin change tellement du début à la fin, comme j'ai l'impression que je trouve des trucs, puis tu sais, on s'habitue à dessiner nos personnages. Fait que comme il y a tout le temps quand même un travail de retouche qui se fait comme à la fin pour être sûr que comme c'est raccord, mais si on regarde, c'est ça, les dessins du début puis de la fin, ça a tout le temps beaucoup changé, donc on s'améliore. En tout cas, j'ai l'impression que je change vite de style quand je travaille fort sur quelque chose.
Puis en parallèle, tu parlais d'ordonner aussi, de jouer un peu avec l'ordre des épisodes et l'alternance des publicités aussi de type rétro. Donc, il y a eu un travail de construction qui s'est fait dans l'agencement de l'album aussi pour, j'imagine, voir un peu à ce que les histoires amènent ou varient de l'une à l'autre, etc.
Oui, c'est ça. Puis ça me servait un peu... c'est ça, les publicités, c'est sûr que ça rend comme le livre plus riche. Je trouve que comme ça se lit moins vite, c'est comme il y a beaucoup de petits textes, ça permet de mettre tellement de blagues supplémentaires aussi dans un livre, mais je trouve que ça agit aussi comme des genres de chapitres dans le livre que comme on peut pas, t'sais, on lit pas ça tout d'une traite, là c'est fini. Il y a comme on prend des petites pauses, on a le temps d'oublier un petit peu ce qui vient de se passer aussi comme. J'aimais ça faire des références à dans les publicités à comme des choses qui venaient de se passer. Puis aussi comme le travail de pastiche continue dans les publicités, parce que des fois, c'était des publicités juste de produits, mettons, je sais pas, il y avait comme tout un épisode avec beaucoup de chips, puis là, comme il y a des annonces de chips avec des saveurs par rapport, mais aussi, j'aimais ça un peu jouer à comme construire une genre de fausse identité pour mon éditeur par rapport aussi. Il y a des annonces de fausses séries publiées chez Papa, comme des séries, comme des fascicules de séries comme romantiques, genre qui s'appellent Amoré. Puis là, ça, à chaque fois, comme ça dit, de contacter les éditions Papa, puis j'espère tellement que comme les gens vont contacter Luc, puis le déborder, mon éditeur, avec des demandes par rapport. Mais c'est comme, c'est ça. C'était aussi vraiment un jeu pour moi de faire comme si aussi. Comme si j'en avais fait comme des centaines de Scooby-Doo. Il y a des formulaires pour commander d'autres recueils de Scooby-Doo avec des titres par rapport. Fait que c'est ça.
C'est sûr qu'il y a toujours un danger. Il y a toujours un danger, par contre, à dire à de solliciter ton éditeur, parce qu'après ça, tu pourrais te retrouver à devoir dessiner une série de BD à l'eau de rose aussi.
Oui.
Donc, il y a ce danger-là. Mais donc, Scooby-Doo, c'est un peu, dans le fond, est-ce qu'on le voit un peu comme une lancée, comme un exercice que tu as donné? Justement, une vacance entre deux albums dont tu nous fais bénéficier pour nous entraîner dans l'absurde, ou est-ce que c'est un concept que tu vas vouloir réexploiter en termes de structure, soit adapté à d'autres genres, à d'autres styles, à d'autres univers?
Je pense que c'est un concept que je voudrais réutiliser, ou en tout cas, j'ai l'impression que là, présentement, dans la lancée que j'ai, c'est que je suis partie de livres plus classiques, ben de formes de livres plus classiques que j'adore faire. Là. C'est vraiment pas parce que j'aime pas ça, j'adore ça, mais là, c'était comme, ça allait un petit peu plus vers presque un, tu sais, c'est pas un objet conceptuel, là, c'est quand même un livre, mais comme en petite histoire, mais que je m'en veux, je sais pas, j'ai l'impression que ça devient comme de plus en plus épuré, comme mon affaire de pastiche, puis de, tu sais, d'objet. J'ai l'impression que l'objet, même en tant que tel, est comme un peu un pastiche, puis je pense que c'est un peu vers cette direction-là que je voudrais aller tranquillement. Pour l'instant, j'ai pas encore full d'autres projets de livres, mais j'ai l'impression que je m'en vais aussi un petit peu plus vers, je sais pas, que je fais un genre de retour aux sources vers les arts visuels dans lesquels j'ai étudié. Fait que c'est peut-être plus vers là que je m'en vais, mais c'est sûr que comme, c'est ça, la bande dessinée, ça me revient tout le temps. Ça va rester un petit peu tout le temps, tout autour de moi.
Évidemment, je le rappelle, on peut découvrir justement cet univers de pastiche, d'humour et d'absurde. Les enquêtes de Scooby-Doo, c'est du côté des éditions Pow Pow, c'est de Caton. Et avant de se laisser, je me sentirais un peu obligé de un peu mal de ne pas faire un petit parallèle vers Mimose et Sam, le tome 3 qui est arrivé l'an dernier, et tome 3 qui s'est vu récompensé d'ailleurs dans les prix BDS Causa pour le prix meilleur album jeunesse. Donc, félicitations d'ailleurs au passage.
Merci.
Et donc, j'imagine que dans le fond, c'est une série que tu avais démarré au départ, dans laquelle tu explorais d'ailleurs incidemment un peu un motif d'enquête au début, et donc une BD qui est adressée dans le fond au travail pour essentiellement les 4-6 ans à peu près. Donc, peux-tu nous parler un peu de comment c'est construit? Parce qu'une fois la première lancée, donc là, tu en es rendu à un troisième tome, donc j'imagine que ta série, ton univers s'agrandit dans le fond d'album en album, de tome en tome.
Oui, c'est ça. Finalement, c'était vraiment la première fois avec Mimose et Sam 1, je pense que c'était 2016, si je ne me trompe pas. C'est la première fois que je faisais vraiment, tu sais, c'est ça, une histoire d'enquête. Puis ça peut être tellement simple, c'est ça, quand c'était pour les 5 ans, c'était pas une très grande enquête, difficile à comprendre, mais il y avait quand même des petits thèmes de comme, tu sais, je sais pas, c'est un plant de basilic qui se fait grignoter ses feuilles pendant la nuit, puis là, c'est un petit peu comme mener une enquête, puis faire des entrevues avec les insectes, les animaux, pour savoir, comme, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont vu, puis tout ça. Fait que c'était juste comme, ça m'a juste fait tellement plaisir de monter une petite histoire comme ça, tellement simple. C'était un peu peut-être un test pour moi, voir si j'aimais ça, si j'étais capable de faire ça. Puis aussi, je pense qu'à la base du projet, surtout avec le premier, c'était vraiment inspiré aussi de, tu sais, vu que ça se passe dans un jardin, je pense que comme c'était beaucoup inspiré de l'amour de ma famille. Chez mes parents, ils ont un super gros jardin, puis ma soeur est agronome, mon père est agronome, puis je sais pas, c'est comme vraiment présent dans ma famille. Puis le dénouement de Mimose et Sam 1, c'était un petit peu comme un truc de jardinage qui existe dans la vraie vie, mais c'est un peu comme pas illustré comme dans mon livre. Fait que ça, c'était une grosse inspiration. Puis après ça, c'est ça, dans le tome 2, c'est encore pas mal en quête, L'affaire avec les séries, c'est que c'est ça, c'est un peu tout le temps à renouveler. C'est un petit peu particulier pour ça. Puis là, encore une fois, il faut pas, tu sais, il faut que je trouve des manières de que ce soit pas redondant, puis tu sais, de pouvoir renouveler ça. Fait que j'ai l'impression que le troisième, c'est un petit peu plus peut-être une quête qu'une enquête. Mais quand même, c'est ça, c'est le fun de ramener quand même des personnages, puis peu à peu, comme leur personnalité s'affine, puis on vient à plus savoir, comme, je sais pas, comment ils réagiraient dans certaines situations. Fait que pour ça, je trouve ça vraiment intéressant. Là.
Et puis j'imagine, tu parlais de ta famille qui est agronome, et qui a des ressources là-dedans, c'est-à-dire aussi quand tu cherches des idées pour des plantes, pour des lieux, pour des décors aussi, parce qu'on est quand même dans ce jardin-là, mais la documentation est quand même assez accessible, si on peut dire.
Oui, puis c'est vraiment comme pour moi, Scooby-Doo, c'est peut-être un peu moins ça, parce que c'est assez simple, mais c'est vraiment un gros trip de dessin aussi, là, ces séries-là, pour moi, c'est comme... ça, plein de plantes, c'est tellement fun à dessiner, pour moi, des genres de dessins de plantes, de jardins, de fleurs, tout ça. Fait que pour ça, je manque vraiment pas d'inspiration visuellement.
Oui, puis en fait, de tome en tome, j'ai l'impression que ça me fait toujours penser, quand j'étais jeune, des BD que tu regardes, puis que finalement, tu es capable de les regarder plusieurs fois parce qu'il y a assez de détails, parce qu'il y a des éléments, puis des fois, quand tu n'es pas avec quelqu'un pour t'accompagner à la lecture, ben il faut qu'il y ait quand même des trucs visuels pour aller happer l'enfant qui est en apprentissage, dans le fond, de la lecture aussi. Donc, oui, les dessins sont quand même assez foisonnants. Là.
Mais c'est vraiment quelque chose que je me rappelle de mon enfant, justement, que c'est quelque chose que j'aimais tellement faire. Bien, j'aimais déjà beaucoup dessiner, fait que sûrement j'étais intéressée beaucoup aux images déjà, mais de pouvoir, c'est ça, regarder des illustrations plusieurs fois, puis chercher comme des petits détails, puis quand il y avait comme, c'est ça, des petits dessins un peu cachés, comme j'aimais tellement ça, là, je capotais, fait qu'on dirait que j'essaie de reproduire ça, je me dis que les enfants doivent être encore comme ça.
Et avec le troisième tome, Mission Hibernation, tu disais, on est plus dans la quête, dans le fond, pour le contexte, à chercher à trouver à s'endormir. On est dans l'hiver de l'hibernation, dans le fond, donc la préparation à l'hiver. Et donc, j'imagine que, encore là, la recherche prend une dimension particulière parce qu'il faut quand même trouver une variété de relations avec l'hiver chez des insectes, chez des créatures du jardin. Donc, est-ce que c'est un peu au fil de recherche comme ça qu'on vient tisser un peu le fil de l'intrigue? Ou?
Oui, absolument. Bien. Pour moi, ça a été une façon de me préparer à faire le livre, là, vraiment comme d'un côté faire des recherches sur c'est quoi les trucs pour s'endormir, classique pour les enfants, puis de l'autre côté comme en fait qu'est-ce qu'ils font les animaux puis les insectes l'hiver dans un jardin. Comme j'ai certaines connaissances, mais là il a quand même fallu que j'aille voir qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis c'est vraiment une belle partie de mon métier, je trouve. Mettons pour des livres comme Scooby-Doo, j'ai pas de temps à faire de recherche parce que ça vient de trucs de culture populaire que je connais déjà, mais pour à la fois mes livres jeunesse, mais aussi des contrats, ça me fait faire des recherches, ça me fait apprendre des affaires sur des domaines qui n'ont aucun rapport en fait avec mon métier, que c'est juste comme des connaissances générales, puis ça me nourrit beaucoup. Là.
Puis ça se place bien dans des conversations aussi.
Aussi. Quand on va pouvoir faire des soupers à nouveau, je vais avoir plein de choses à dire sur les insectes.
Et je mentionne d'ailleurs, avant de se laisser, que la série, outre le prix BDIS, je mentionne qu'elle a été adaptée en anglais, en chinois aussi, à tout le moins pour le premier tome. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui semble avoir un bel appétit aussi pour ce type d'histoire-là. Donc, j'imagine que ça va être le fun de voir aussi cette partie-là de ton travail faire son chemin tranquillement hors du Québec, hors de la francophonie.
Ben oui, vraiment, je trouve ça vraiment précieux, là. J'adore ça.
Alors, si les gens veulent le découvrir, en fait, la série s'appelle Mimose et Sam, donc on en est déjà au tome 3, et ça, c'est du côté de Comme des géants. Caton, merci beaucoup.
Merci.
Alors voilà qui conclut cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine, et on se revoit la semaine prochaine.